on va parler maintenant ensemble de prise en charge et d'accompagnement des malades, et plus précisément du parcours de soins, l'annonce en fait du diagnostic jusqu'à l'entrée en EHPAD.
Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Alix Ravier. Je travaille donc à l'hôpital de la Roberto. Je suis gériatre. Donc on parle ensemble du parcours de soins des patients, donc du domicile à l'entrée en EHPAD. C'est un topo en deux parties. Tout d'abord, on va évoquer donc le parcours de soins diagnostique des patients, et ensuite on évoquera donc les différentes structures sur lesquelles on s'appuie pour justement accompagner les patients. Alors, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que la clarification de ce parcours de soins, en fait, est une des priorités des différents plans nationaux maladies d'Alzheimer et maladies neurodégénératives, que le parcours de soins dépend quasiment essentiellement du stade à laquelle on fait le diagnostic de la maladie neuroévolutive. Et je fais un peu de pub, mais l'intérêt du diagnostic précoce en fait, des maladies est largement démontré maintenant. Et donc, tout ceci a été évoqué dans le guide de la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors, la première étape, c'est une étape de repérage chez le médecin traitant, donc en médecine libérale. Après un interrogatoire assez exhaustif, précis et détaillé dans la mesure du possible, on va d'abord évaluer donc la plainte cognitive, la plainte du patient. Est-ce que c'est quelque chose qui est suspect? Est-ce que c'est une plainte banale? Il faut savoir qu'environ une personne sur deux de plus de 50 ans a l'impression d'avoir une mémoire qui est moins bonne. Voilà. Des critères de plainte suspecte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par exemple un patient qui se rappelle plus d'un pan de ses souvenirs malgré un indiçage qui est censé être aidant. C'est par exemple des difficultés de langage en plus des troubles de la mémoire ou alors d'autres signes associés, des problèmes de sommeil par exemple. On s'attache à déterminer aussi l'humeur du patient. Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il est dépressif? On évalue aussi les traitements parce qu'on sait que certains traitements médicamenteux peuvent avoir de l'impact sur les fonctions cognitives. Ensuite, un point essentiel de l'interrogatoire, c'est d'avoir la version, j'ai envie de dire, de l'aidant, en fait, d'étoffer son interrogatoire avec l'aidant, parce qu'on sait que le ressenti du patient est une chose, mais le ressenti de l'aidant en est une autre, et on a parfois des indications assez précises. On peut notamment évaluer certaines situations à risque. Est-ce qu'il existe des plaques au gaz chez le patient qui a des oublis? Il ne faudrait pas qu'il oublie d'éteindre son gaz. Est-ce qu'il conduit encore alors qu'il a des troubles cognitifs évolués? Voilà, c'est des situations sur lesquelles il est important qu'on connaisse le statut pour pouvoir alerter le patient et son entourage. Donc, un examen clinique est fait. Ensuite, le médecin réalise un test de repérage plus que de dépistage. Le MMS, c'est le test dont vous a parlé le docteur Bouzige, entre autres. Voilà. Et à l'issue de cette consultation, trois cas s'offrent au médecin. Donc, un patient qui n'a pas de troubles neurocognitifs, premier cas. Le second cas, donc un patient qui a des troubles neurocognitifs majeurs, donc c'est-à-dire qu'il existe une répercussion sur son autonomie au quotidien. Et enfin, le troisième cas, donc un patient qui est autonome et qui a ses troubles de la mémoire. Alors, dans le premier cas, on peut rassurer le patient. Donc, il n'a pas de troubles cognitifs. Néanmoins, il est important d'assurer un suivi parce que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas dans les tests des troubles cognitifs qu'il n'a rien. Néanmoins, c'est important de le suivre. On met en place un programme de prévention classique, donc une alimentation équilibrée, avoir une activité physique adaptée, limiter au maximum la prise d'alcool qui a un effet toxique sur la cognition. Autre possibilité, le patient a en fait une maladie psychologique qui impacte aussi la cognition, auquel cas il sera pris en charge dans une filière spécialisée. Le second cas, donc c'est le cas du patient qui présente des troubles cognitifs avec une perte d'autonomie. Donc on lui propose de faire les examens complémentaires classiques, donc une IRM cérébrale au mieux, des examens sanguins et des tests neuropsychologiques. C'est là que le patient va entrer dans la filière spécialisée, ou alors le médecin spécialiste, donc gériatre, neurologue, psychiatre, aura avec tous ses faisceaux d'arguments, pourra en fait poser un diagnostic plus précis. S'ensuit ensuite la prise en charge. Donc à ce stade-là, ce qui est important, c'est surtout de maintenir l'autonomie du patient, d'avoir une stimulation cognitive forte. On peut aussi proposer des essais thérapeutiques, non pas des essais pour traiter les lésions, mais des essais pour traiter les symptômes collatéraux, comme par exemple les troubles du comportement. On pense aussi à ce moment-là aux aidants, leur proposer donc du soutien et du répit et faire un suivi psychologique, pourquoi pas, aux patients si c'est nécessaire. Le troisième cas, donc le patient est autonome, il se peut parfois qu'il travaille encore, donc il réalise les mêmes tests de première intention, donc l'imagerie cérébrale, l'IRM, l'examen de sang et les tests neuropsychologiques. Voilà, à ce stade de la maladie, on se doit d'avoir des explications les plus précises possibles sur l'évolution des troubles, sur la prévention. Donc je vous disais que parfois, certains patients peuvent travailler encore, l'orienter vers la médecine du travail pour adapter son poste, pour que la charge, que le stress soit le moins important possible. Voilà, on lui propose d'établir ses directives anticipées et ensuite la prise en charge. À ce stade-là, donc les essais cliniques qu'on peut proposer sont plus ciblés sur les protéines dont vous a parlé le docteur Bouzige, donc pour modifier l'évolution des troubles. Donc finalement, on a une première étape du parcours de soins en médecine générale avec le repérage et l'évaluation des troubles. Ensuite, le patient rentre dans la filière spécialisée avec une possibilité d'hospitalisation de jour ou alors avec par le biais donc d'un gériatre, d'un neurologue ou d'un psychiatre. En milieu spécialisé, on discute aussi beaucoup des cas complexes et donc on propose de la recherche clinique aux patients. Alors le parcours de soins, voilà, c'est la deuxième partie du topo. Alors c'est un schéma qui est assez complexe mais qu'on va décortiquer ensemble. Ce qui est important de voir dans ce schéma, c'est la grande connexion qu'il existe entre les différentes structures. En témoigne le nombre de flèches que vous trouvez et des flèches qui vont dans tous les sens en fait. Voilà. L'autre chose importante à prendre en compte, c'est que le patient doit toujours être au centre de la prise en charge. Il est absolument primordial de recueillir son consentement d'une part pour lui proposer, même s'il a des troubles cognitifs. Et d'autre part, il faut s'efforcer ou du moins honorer au maximum ses souhaits. Voilà. Parfois, ce n'est pas possible, mais ça reste important à prendre en compte. Alors, pour rentrer dans la filière spécialisée, il existe des consultations mémoire ou des hôpitaux de jour. À Strasbourg, il y a 3 points d'entrée. Donc, il existe l'hôpital de jour de la Roberto, la consultation de neuropsychologie à l'hôpital de Haute-Pierre et l'hôpital de proximité donc, du groupe Saint-Vincent, la clinique de la Toussaint. Le but de cette structure, donc, c'est de faire le diagnostic du trouble cognitif, de faire le suivi du patient et de lui proposer une rééducation-remédiation. Dans le cadre de la rééducation, on fait appel aux hôpitaux de jour de la BRAPA, rue Sainte-Élisabeth, si ça parle à certains. Je vous parle maintenant des structures qui interviennent à domicile. Alors, deux entités. L'équipe mobile, donc c'est une structure qui est sollicitée par le biais des médecins de ville. Et en fait, le gros intérêt dans les pathologies neuroévolutives, c'est que certains patients sont isolés et n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès aux hôpitaux. Et donc, les équipes mobiles de gériatrie, entre autres de l'hôpital, peuvent aller voir les patients dans leur domicile et proposer des premiers soins. L'autre intérêt des équipes mobiles, c'est d'évaluer en fait des situations aiguës, comme par exemple les problèmes de comportement qui vous ont été évoqués. Une autre entité qui intervient à domicile, mais plutôt dans un cadre de rééducation et de remédiation cognitive, ce sont les équipes spécialisées Alzheimer à domicile. Alors, il y a un A pour Alzheimer dans l'acronyme, mais les ESAD s'occupent aussi des patients qui ont des maladies à corps de Lévy, des maladies frontotemporales et des maladies vasculaires. Donc en fait, c'est une structure qui intervient à domicile avec des professionnels spécialisés pour faire de la remédiation cognitive dans le lieu de vie du patient. Pour vous donner un exemple, une fois j'avais un patient donc, qui aimait beaucoup jouer au piano, c'était son loisir en fait, et avec l'avancée de la maladie d'Alzheimer et l'apparition de troubles du comportement, donc de motivation, l'apathie dont on parlait, là, il avait des difficultés à se mettre en marche pour jouer du piano. Et finalement, il restait pendant de longues heures sans rien faire. avec les ZAD. Ils ont travaillé pour justement débuter d'abord avec des partitions plus simples, mettre en place un rituel, une stratégie pour qu'ils se remettent au piano. Un autre exemple de patient que j'ai eu récemment, donc un patient qui avait déménagé, en fait, qui avait des difficultés à s'orienter dans son nouveau quartier. Et avec les ZAD, donc ils ont travaillé, élaboré des stratégies en fait pour faire les trajets routiniers quotidiens, comme par exemple d'aller à la boulangerie, d'aller dans l'épicerie de proximité, voilà des choses comme ça. On est très concret avec les ZAD. À Strasbourg, cette structure s'appelle le Phare, et donc c'est une succursale de l'Abrapa également. Maintenant, je vous parle des structures qui travaillent en vue du soutien et du maintien à domicile. Donc, on fait fréquemment appel aux services de soins à domicile, donc infirmières, kinés, orthophonistes, qui peuvent se déplacer à domicile, auxiliaires de vie. Clairement, l'objectif, c'est la stimulation cognitive et fonctionnelle pour maintenir ses capacités. J'évoque après donc tout ce qui est du ressort un peu social. Alors c'est vrai que j'ai mis les associations avec, mais je pense que le soutien des aidants fait partie d'une priorité. Donc les plateformes d'appui aux médecins généralistes, les assistants sociaux de secteur avec qui on fait beaucoup de relais, les associations. Donc le but de ces structures, c'est d'organiser donc un plan d'aide qui soit opérant, acceptable d'une part pour le patient, mais aussi pour l'aidant. On peut proposer aussi du répit pour les aidants. Voilà, et c'est dans ces moments-là aussi qu'on discute et qu'on essaye d'anticiper au maximum l'entrée en EHPAD. Maintenant, je voudrais évoquer avec vous des structures qu'on sollicite lorsque la maladie est assez avancée, lorsque les troubles du comportement deviennent trop importants pour être gérés à domicile. Voilà, donc on peut solliciter l'unité cognitivo-comportementale. Donc c'est une structure hospitalière, donc c'est vraiment une hospitalisation. C'est un petit service fermé d'environ 10 lits, où en fait le but va être de traiter les problèmes de comportement, de faire de l'éducation auprès des aidants pour justement apaiser ces crises comportementales. Voilà. Alors, les troubles du comportement, on sait qu'ils sont présents dès le début de la maladie neuroévolutive. Ils sont en général tout à fait tolérables et acceptables, mais il se peut parfois que ces troubles du comportement deviennent envahissants, et auquel cas, il faut savoir passer le relais. Dans les unités cognitivo-comportementales aussi, on avance sur le projet de vie des patients, et notamment toujours anticiper au maximum l'entrée en institution. L'unité d'hébergement renforcé, donc c'est plutôt un lieu de vie pour les patients qui ont des troubles du comportement majeurs et qui malheureusement n'ont pas pu être apaisés avec les différentes thérapeutiques. Voilà, le retour à domicile n'est pas possible et l'institution n'est pas non plus possible du fait de ces troubles du comportement. Autre étape dans la vie d'un patient qui présente une maladie neuroévolutive, c'est une étape assez délicate qu'on évoque avec les familles. Et l'expérience montre que plus c'est discuté en amont, plus le sujet est abordé, plus l'intégration du patient en EHPAD sera bonne. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'un patient a une maladie d'Alzheimer qu'il sera dans une unité spécialisée. Voilà, il y a des patients qui ont des maladies de la mémoire et qui se comportent de manière adaptée et donc peuvent tout à fait avoir accès à des unités classiques dans les EHPAD. Voilà. Il y a aussi des unités de vie protégées, donc ce sont des structures pour les patients qui ont des troubles du comportement à type de déambulation excessive. Ou alors, ce sont des patients qui, du fait de leurs troubles du comportement, vont avoir besoin d'être sécurisés et d'être encadrés avec plus de personnel. Voilà. Alors, on pourra en parler, mais c'est vrai que le frein qui est souvent dit par les familles lorsqu'on consulte, c'est que c'est l'image qu'évoque l'EHPAD, d'une part, qui est assez pessimiste, et d'autre part, c'est le grand sentiment d'abandon des familles pour leurs proches. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EHPAD, c'est une location de chambre dans un établissement. Certes, il y a une vie en collectivité, mais on n'est pas enfermé, on a des permissions, on peut sortir. Voilà, on peut faire intervenir du personnel dans une EHPAD. Alors, pour illustrer les connexions, donc je vais juste vous parler de ma pratique. Donc, en fait, je travaille dans l'hôpital de jour, d'une part, avec les psychologues, les neurologues, assistantes sociaux. Je travaille également à l'unité cognitivo-comportementale, donc le lien est assez simple à faire. On est aussi amené à solliciter donc, les équipes mobiles pour se déplacer à domicile. Si on voit qu'en consultation, il peut y avoir un problème au domicile, on appelle l'équipe mobile qui intervient assez rapidement. Alors, il n'y a pas de consultation comportement à Strasbourg, mais c'est une entité qui existe dans d'autres centres en France. Voilà, et ensuite, on peut faire appel également. Nos assistants sociaux font le relais auprès des assistants sociaux de secteur pour justement continuer la prise en charge de nos patients. Donc finalement, le parcours de soins de nos patients débute en médecine générale avec le repérage des troubles cognitifs. Ensuite, il existe un avis auprès de la filière spécialisée. Et le but, c'est vraiment donc, l'accompagnement des patients, proposer des solutions de répit pour les aidants, proposer des protocoles de recherche thérapeutique et des protocoles de recherche clinique par ailleurs quand c'est possible. Voilà, prévenir les situations de crise de comportement et aussi, j'insiste, anticiper au maximum donc la perte d'autonomie et l'entrée en maison de retraite. Voilà. Avec une pensée particulière pour les aidants qu'il faut soutenir absolument.
Merci. Merci beaucoup.